Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Voltaire écrivit une énigme, je vous la cite. 5 voyelles, une consonne, en français compose mon nom et je porte sur ma personne de quoi l'écrire sans crayon. Le seul mot qui énumère autour d'une seule consonne toutes les voyelles, un mot pentavocal, comme le disent les linguistes, est le suivant, oiseau. Mais ce qui nous réunit aussi tous aujourd'hui, c'est cette fascination pour le chant, la beauté, l'agilité, la parure que l'oiseau nous inspire et que nous lui envions. L'oiseau qui apparaît, une chouette tracée dans l'argile de la grotte Chauvet, un peu plus tard une flûte au trou percé dans un os d'oiseau de mer, au paléolithique, témoigne de l'admiration de l'humain, Pateau, à l'égard de ce brillant funambule qui défie les précipices. Une exposition, Paradis d'oiseaux, a lieu en ce moment dans une école, l'école des arts joailliers à Paris, accompagnée par le Muséum d'histoire naturelle et le Musée des arts décoratifs et la Manufacture de Sèvres et soutenue par Van Cleef & Arpels. On y rencontre, et c'est inhabituel, les résultats que savants, artistes, créateurs ont conçus par admiration du XVIIIe siècle à nos jours. Aussi bien dans leur mémoire scientifique, leur représentation scrupuleuse ou poétique, que les extraordinaires bijoux que les fortunes du monde se sont fait faire depuis des siècles pour participer et se parer de la beauté optique de nos amis ailés. Des oiseaux mythiques aux volières des princes, des cabinets de curiosité ou des premiers traités du XVIe siècle, de la naissance des oiseaux automates à l'ornithologie scientifique et jusqu'aux oiseleurs de Paris, des tableaux de Houdry aux broches oiseaux de Pierre Sterlet dans les années 50, ces oiseaux vivent de notre admiration et un ensemble singulier de chefs-d'œuvre est réuni dans cette petite exposition précieuse et inattendue à l'école des arts joailliers à Paris. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir la commissaire de l'exposition, Joëlle Garcia, chef du service de médiation et savoir pour la bibliothèque du muséum, occupée de faire connaître les trésors de ce muséum, la troisième plus belle bibliothèque de France peut-être, qu'est-ce que c'est ça ?
Et du monde.
Du monde !
La troisième bibliothèque de sciences naturelles au monde.
Bravo. Et donc merci de nous avoir fait aimer ces oiseaux avec des documents absolument extraordinaires que vous avez réunis à cette occasion et qui racontent une histoire singulière.
Tout à fait. Nous avons sélectionné donc deux collections privées et dans la collection patrimoniale de Van Cleef & Arpels, à peu près 90 broches représentant des oiseaux de haute joaillerie, tous plus beaux les uns que les autres. Et nous les avons mis en dialogue avec des œuvres graphiques, picturales, des trois institutions que vous venez de citer. Et ce dialogue, en fait, est tout à fait surprenant, puisqu'on arrive tout à fait à trouver une correspondance formelle entre un dessin d'un manuscrit provençal du XVIIe siècle et une broche de Pierre Sterlet du XXe. Donc c'est un travail tout à fait plaisant de pouvoir, comme cela, à travers les âges, sentir comment l'inspiration des artistes prend des formes qui se retrouvent et qui se développent et qui se correspondent.
Alors on va en parler. Donc avec nous, nous avons Marion Chac-Millet, coordinatrice scientifique pour la ville de Versailles. Pourquoi Versailles ? À cause des grandes volières de Louis XIV ?
C'est vrai qu'on est en effet, on peut tout à fait faire le lien avec Versailles et notamment les ménageries du château de Versailles, dans lesquelles les plus grands artistes du XVIIe et du XVIIIe sont venus travailler.
On dit que Houdry peignait d'après les animaux,
oui,
les volières
tout à fait.
De Versailles.
En effet, Houdry est venu travailler plusieurs fois à partir des oiseaux de la ménagerie, et on retrouve quantité d'espèces en effet dans ces tableaux. Qui n'ont pas forcément pour but de représenter des oiseaux tels qu'il les a vus, mais dans des compositions, soit qui mettent en scène et nature morte et oiseaux vivants qui portent un sens supplémentaire. Donc il y a à la fois un sens du décor que du coup on retrouve dans la joaillerie plus tard au 19e siècle, mais aussi un sens, hein, une allégorie qui est évidemment aussi est très présente dans la joaillerie au 19e siècle. Et c'est vrai que c'était particulièrement intéressant de pouvoir faire...
Quand vous parlez d'allégorie, vous voulez dire que le sens de la représentation des oiseaux est d'abord symbolique dans l'histoire de l'art ?
Pas forcément, non. Il y a quantité de niveaux viennent intervenir. C'est-à-dire qu'à la fois l'oiseau est intéressant pour sa beauté propre, pour les ressources artistiques qu'il peut proposer à l'artiste, depuis la plume, le chant, le vol, etc. Ensuite, pour le sens, en effet, qu'il peut apporter. La symbolique, il y a des symboliques très précises liées à chaque espèce d'oiseau, mais aussi de façon un peu plus générale.
Parce que la symbolique, on la sent très tôt. Enfin, les oiseaux sont pris comme emblème très tôt dans l'héraldique, par exemple.
Oui,
on le sent. Et là, c'est vrai que ce sont les vertus de l'oiseau, le courage, l'agilité, la vitesse, enfin, des choses comme cela. J'imagine que l'on sent à travers leur représentation. Mm-hmm. Est-ce que ces choses anciennes, ces conceptions anciennes, perdurent dans l'histoire?
Ah oui, tout à fait, elle perdure complètement. Et je me suis amusée, en préparant l'exposition avec Joël Garcia, à regarder les fonds de publicité du Musée d'art décoratif. Et c'est très intéressant, puisque là, le sens vient au devant. Et on interprète l'oiseau justement par le message qu'il va adresser inconsciemment au spectateur.
Alors on va en reparler aussi avec vous, Guillaume Glorieux. Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école des arts joailliers. Vous nous direz tout à l'heure ce que c'est que cette école. Mais vous êtes surtout un grand professeur, spécialiste de la peinture du XVIIIe siècle. Et vous avez mené des recherches et publié beaucoup de livres et d'articles sur le collectionnisme en France à l'époque des Lumières. Et vous venez de publier un livre chez Gallimard sur un sujet voisin.
Absolument, un livre qui porte sur les métiers de la joaillerie. Le sujet n'avait jamais été traité, en tout cas pour le grand public. Il y avait là une lacune à combler. Il existe certes des ouvrages, mais à des fins professionnelles, pour les futurs praticiens, pour les futurs joailliers qui vont pratiquer le métier, mais pas pour le grand public, effectivement.
Est-ce que vous croyez que le fait qu'il y ait cette exposition en ce moment, ce qui est quand même une exposition qui... C'est rare qu'une école de joaillerie s'associe avec des très grandes collections nationales pour montrer un travail de poésie, d'artisan, de collectionneur, de joaillier. Est-ce que l'intérêt tout d'un coup qu'il y a dans cette exposition n'est pas la redécouverte aussi des métiers d'art? Comme s'il y avait une nouvelle sensibilité à l'égard de cela qui apparaissait en ce moment dans le grand public. Évidemment, il y a toujours eu les amateurs.
Alors très probablement, ce sont des métiers effectivement absolument fascinants qui concentrent des savoir-faire admirables qui sont transmis depuis des siècles, de génération en génération, et il y a effectivement un intérêt du public pour ces métiers. C'est en effet la première fois que l'École des Arts Joailliers travaille en collaboration avec des institutions publiques, et nous en sommes très heureux. Ce n'est pas la première exposition organisée par l'École, mais c'est en effet la première fois que nous travaillons ainsi avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, le Musée des Arts Décoratifs ou Sèvres, et que nous accueillons des œuvres issues des collections publiques et qui viennent entrer en résonance, qui viennent entrer en dialogue avec les créations joaillières. L'idée étant de replacer la création joaillière au sein de l'histoire de l'art. Et le dialogue est effectivement extrêmement intéressant.
En fait, vous n'avez pas tort, on la considère souvent comme marginale au fond. Comme si cette préciosité était futile. Alors que les grandes collections d'objets d'art, vous connaissez vous très très bien l'histoire des objets d'art, puisque vous enseignez, je crois, l'histoire des objets d'art donc à l'école du Louvre. Mm-hmm. Donc normalement, devrait en faire partie. Et en fait, même au Louvre, c'est un département très particulier qui est plutôt lié à la curiosité qu'à l'histoire du langage et de l'écriture de l'art d'une certaine façon.
Oui, on aborde la joaillerie surtout au travers des joyaux de la couronne, qui malheureusement, on a largement disparu. Et c'est vrai que au Louvre, lorsqu'on s'intéresse aux objets d'art, c'est une toute petite partie qui malheureusement très souvent est effacée au profit plutôt de l'orfèvrerie, du mobilier, etc.
Les cabinets des merveilles, en fait. Hein.
Exactement. Et malheureusement, on oublie d'intégrer. Je m'en suis vraiment aperçue en préparant l'exposition. C'est vrai que on oublie d'intégrer la joaillerie à l'étude des objets d'art, et pourtant certaines techniques, là, on l'a abordé au travers de l'exposition. Par exemple, l'art de l'émail, qui est très souvent redécouvert.
Parce que dans l'exposition, il y a des œuvres de Lalique en émail presque translucide. Enfin, c'est assez curieux. Une sorte d'émail qui n'est posé sur rien, qui tient de lui-même et qui permet une sorte de lucidité. Guillaume, expliquez-nous cela.
C'est ce qu'on appelle l'émail plique à jour, qui est tout à fait caractéristique de l'époque Art Nouveau et de la bijouterie Art Nouveau. C'est en fait un dérivé de la technique de l'émail cloisonné, mais il n'y a pas de fond métallique, en effet. Et c'est de l'émail soit transparent, soit translucide, de telle sorte que ça provoque un effet de vitrail absolument admirable. Alors, et Lalique a parfaitement maîtrisé ce savoir-faire.
Il y a quelque chose de très amusant, on en reparlera en cours d'émission, dans l'ensemble des bijoux très précieux qui sont là, c'est l'invention technique, parce que on fait vibrer des plumes, on fait vibrer des antennes, on crée des transparences autour d'une perle. Enfin, il y a une invention, il faut absolument que nous en reparlions. Mais malgré tout, Joël, vous êtes lancé dans cette exposition, et pour être commissaire de cette exposition, qu'est-ce que ces oiseaux nous apprennent sur l'homme ?
Alors, ces bijoux, en fait, nous apprennent comment est-ce que l'homme regarde l'animal, comment est-ce qu'il va le dessiner, le comprendre et le transcrire dans un bijou qui sera en trois dimensions.
Bijoux, vous parlez des bijoux dans l'exposition, il y a beaucoup d'autres choses que des bijoux.
Et justement, à partir de ces bijoux, nous avons, Marion Millier et moi, cherché en fait des représentations qui avaient pu soit inspirer directement les artistes, soit éduquer leur regard pour qu'ils finalement transforment cette idée d'oiseau en une création qui tienne aussi compte à la fois de techniques très inventives pour donner l'illusion de la liberté, mais aussi de très belles pierres, précieuses ou semi-précieuses, ou d'autres matériaux afin de donner une forme. Et le dialogue avec les dessins naturalistes notamment est tout à fait passionnant, puisqu'en fait ces dessins naturalistes sont faits souvent par des artistes qui sont très éclairés en matière scientifique. Et on voit qu'à chaque siècle, le dessin devient plus précis, sans perdre sa charge émotionnelle et symbolique.
Savant, en fait. Vous voulez dire savant. Mais en fait, vous avez raison, il y a quelque chose que je trouve très frappant dans l'exposition, c'est que il y a d'un côté les artistes qui interprètent, stylisent, tirent de la trajectoire de l'oiseau une forme extraordinaire. Je regarde des braques, par exemple, n'est-ce pas ? Là, on est dans les années 40, le fameux plafond du Louvre. Ou bien, mais ça, cette histoire stylistique est tout un pan de l'histoire qui est large. Et puis, un autre qui est incroyablement réaliste, c'est Audubon, n'est-ce pas ? Marion ?
Je pense
à Audubon parce que j'adore ça, parce qu'il y a ces mouvements d'oiseaux qui sont toujours représentés dans un univers naturel, au milieu des feuilles d'eucalyptus, c'est d'une précision extraordinaire, mais c'est joyeux, quoi. C'est une vision joyeuse, pas seulement figée par la science.
Oui, tout à fait. On sent que les artistes, à la fois, comme le disait Joël, sont influencés par une certaine connaissance, parfois même inconsciente, de l'ornithologie. Et en même temps, développe une connaissance tout à fait personnelle de l'oiseau. Alors, vous parliez de Braque tout à l'heure, et c'est vrai que Pierre Sterlet, qui a travaillé dans les années 50 ou 60, était très proche de Braque, était parfaitement conscient de son travail sur les oiseaux. Et Braque a des mots particulièrement touchants lorsqu'il parle de l'oiseau, en se rapprochant d'ailleurs de la poésie de Saint John Perse, avec qui d'ailleurs il a collaboré pour l'Ordre des oiseaux. Et il dit que ce qui l'intéresse dans l'oiseau, c'est l'idée, une certaine idée de liberté, une certaine idée d'éléments qui dialoguent avec les airs, hein, plus qu'une représentation extrêmement réaliste de l'oiseau. Hein. Donc il y a à la fois forcément une conscience de ce qu'est un oiseau, hein, sa constitution naturel, mais en même temps une charge émotionnelle et en message et en idée hein, que l'artiste essaye de traduire de façon peu réaliste et qui évidemment, sans être abstraite, essaye de s'approcher plutôt donc de la sensation que l'on peut avoir de l'oiseau.
Oui, c'est un concept. Enfin, Braque fait magnifiquement avec très peu de couleurs, une économie de moyens folle, un concept. Alors, vous parlez de quelqu'un dont on va parler parce que on est bien obligé de passer par cette nouvelle star qui vient de naître dans le grand public autour de l'exposition. Pierre Sterlé, les grands amateurs de l'histoire de la joaillerie le connaissent très bien, moi pas. Et comme c'est visiblement, quand j'en parle à mes amis, une des grandes émotions que nous avons eues en tous en voyant cette exposition. Qui est Pierre Sterlé, Guillaume, qui est Pierre Sterlé?
Alors Pierre Sterlé est certainement l'une des figures les plus novatrices de la joaillerie au XXe siècle. Et c'est aussi une des révélations de l'exposition en effet. Il est resté relativement méconnu du grand public. Il a pourtant fait une très belle carrière. Il a d'abord été fabricant au service de différentes maisons de la place Vendôme. Il a été parrainé dans les années 1930 par Boucheron et par Van Cleef et Arpels, deux maisons pour lesquelles il a travaillé. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il va progressivement se détacher de ce statut de fabricant et se lancer dans une carrière propre, se consacrer à ses propres créations. Il fréquente les avant-gardes artistiques de son temps, Dali, Cocteau, Braque, nous l'avons dit, et il se montre extrêmement inventif, ingénieux, à la fois sur un plan technique et sur un plan esthétique. Sur un plan technique, on lui doit une invention qui est celle de l'or tressé, de l'or comme tricoté. On parle de cheveux d'ange qu'il va d'ailleurs utiliser pour donner forme aux ailes des oiseaux avec beaucoup de poésie et de vraisemblance. Et puis une invention plus d'ordre esthétique, une innovation esthétique on va dire, puisqu'il va construire ces oiseaux autour de pierres de couleur. Une pierre de couleur et à partir de laquelle il va imaginer toute une composition. Et en cela, il est extrêmement novateur. Innovateur par des lignes aussi très stylisées. Il y a une stylisation absolument extraordinaire chez Sterlé. Un synthétisme de la ligne qui est absolument admirable.
Et en plus, c'est un très mauvais homme d'affaires, donc il fait plusieurs fois faillite. C'est formidable. Hein, donc il se consacre entièrement à son art, il oublie tout le reste, il ne sait plus faire les additions, il perd beaucoup d'argent, tout va bien.
Le rêve pour tout historien de l'art, car il a laissé effectivement beaucoup de traces dans les archives.
Donc c'était sans doute absolument un poète comme l'est Saint-John Perse qui a écrit un très beau texte sur les oiseaux, et je voudrais vous le faire écouter.
L'oiseau, de tous nos consanguins le plus ardent à vivre, mène aux confins du jour un singulier destin. Migrateur et hanté d'inflation solaire, il voyage de nuit, les jours étant trop courts pour son activité. Partant de lune grise, couleur du gui des Gaules, il peuple de son spectre la prophétie des nuits. Et son cri dans la nuit est cri de l'aube elle-même, cri de guerre sainte à l'arme blanche. Au défaut de son aile, l'immense libration d'une double saison. Et sous la courbe du vol, la courbure même de la terre. L'alternance est sa loi, l'ambiguïté son règne. Dans l'espace et le temps qu'il couvre d'un même vol, son hérésie est celle d'une seule estivation. C'est le scandale aussi du peintre et du poète, assembleur de saisons, au plus haut lieu d'intersection, ascétisme du vol. L'oiseau, de tous nos commensaux le plus avide d'être, est celui-là qui, pour nourrir sa passion, porte en lui la plus haute fièvre du sang. Sa grâce est dans la combustion, rien là de symbolique, simple fait biologique. Et si légère pour nous est la matière oiseau, qu'elle semble, à contre-feu du jour, porté jusqu'à l'incandescence. Un homme en mer, flairant midi, lève la tête à cet esclandre. Une mouette blanche ouverte sur le ciel, comme une main de femme, contre la flamme d'une lampe, élève dans le jour la rose transparente d'une blancheur d'hostie. Elle, falquée du songe, vous nous retrouverez ce soir sur d'autres rives.
Vous Vous êtes sur France Culture et vous écoutez l'art et la matière. Et nous parlons à l'instant même de cette exposition Paradis d'oiseaux qui se trouve à Paris, à l'école des arts joailliers, et où on voit se rencontrer à la fois des magnifiques exemples de l'histoire de l'art, des magnifiques exemples de l'histoire des sciences et de magnifiques exemples de l'histoire de la joaillerie. Et c'est beau ce texte, n'est-ce pas ? Elle, falquée du songe, qu'en pensez-vous, Marion Chacmillet ? C'est un drôle de mot, falqué, hein. Elle, falquée du songe. C'est un mot un peu savant, comme ça, que je ne connaissais pas et que je trouve extrêmement beau. On voit comment ça vole et ça claque dans le vent.
Oui, tout à fait. Et les lithographies de Braque, hein, reflètent tout à fait ce terme-là. Saint-John Perse et Braque n'ont pas travaillé ensemble. C'est intéressant. Hein, le vol des oiseaux a été publié en 1962. Et les lithographies de Braque ont été présentées à côté des textes de Saint-John Perse, à qui on a demandé ce texte pour l'anniversaire de Braque. Et Saint-John Perse a eu l'amitié d'écrire ces mots en pensant à l'art de Braque. Et c'est vrai que cette idée du songe est particulièrement bien présente dans ces lithographies. On sent surtout des jeux de superposition de couleurs et cette idée de l'aile qui traverse les airs d'un coup très sec.
Alors, le songe, on l'avait chez les grands collectionneurs, dans les naturalia des cabinets de curiosité, j'imagine. Joël Garcia, comment est-ce que est née cette passion pour collectionner les représentations d'oiseaux, les oiseaux eux-mêmes? Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des progrès dans la naturalisation? Comment ça s'est passé? Quand est-ce que ça a commencé, au fond, hein, je ne parle pas de l'époque d'Aristote, mais je pense dans le monde moderne, après la Renaissance?
Alors justement, c'est à la Renaissance que les sciences naturelles se constituent comme une véritable démarche scientifique et vont paraître les premiers traités d'ornithologie. Et ce sont à partir de ces traités qui vont être illustrés que les représentations d'oiseaux vont se développer. Et ces représentations d'oiseaux, cette étude scientifique est liée aux grandes explorations du monde qui ramène en fait des oiseaux exotiques qu'il va falloir décrire et acclimater. Et les grandes cours royales et princières vont se doter de ménageries et de volières pour les animaux, pour à la fois aussi dans le modèle des basses-cours royales, mais aussi pour montrer en fait et faire vivre tous ces magnifiques oiseaux exotiques.
Alors les oiseaux exotiques, on les ramène morts, vivants.
Alors justement, on les ramène parfois vivants et on les ramène aussi souvent morts. C'est vrai que par exemple les premiers cacatoès sont arrivés dès le XIIIe siècle. Puisque le sultan de Bagdad avait offert à Frédéric II de Hohenstaufen un cacatoès blanc,
des Moluques. C'est pas si facile.
C'est pas si facile. Et en fait, sur des courtes distances, les animaux arrivent vivants. Mais sur les bateaux, ce n'est que plus les voyages sont longs, plus ramener un oiseau vivant est difficile. Néanmoins, les fameux cygnes noirs de l'impératrice Joséphine ont été ramenés en 1802, à partir donc à bord de l'expédition du capitaine Baudin et des navires Le Naturaliste et Le Géographe depuis l'Australie. Et ces animaux sont bel et bien arrivés vivants et ont été installés dans la ménagerie de Joséphine. Par contre, la plupart des oiseaux arrivent cependant sous forme de dépouilles. Et ces dépouilles vont être en fait présentées dans des cabinets de curiosité.
À ce moment-là, on sait naturaliser ou pas encore ?
Alors, on prépare les peaux dans du sel et on les met dans des tonneaux et on les ramène sur les bateaux en Europe.
Parce que je croyais que pour naturaliser, on se servait d'arsenic, non ?
Alors, ça vient un petit peu plus tard. L'arsenic est effectivement utilisé en Allemagne au XVIIe siècle, mais c'est l'apothicaire Becker qui vit en Alsace, qui va en fait faire une recette qu'il va garder secrète assez longtemps, mais néanmoins qu'il va transmettre à un ornithologue aventurier célèbre, François Levaillant, qui publiera au début du XIXe siècle de magnifiques ouvrages d'ornithologie.
Et alors, c'est par exemple dans l'exposition, il y a quelque chose qu'on appelle des buissons d'oiseaux. Ça naît grâce à cette technique d'embaumement, si je puis dire.
Alors, ça naît un petit peu plus tard, puisque en fait, les cabinets de curiosité, qui sont peuplées d'oiseaux, vont en fait éclore à la Renaissance et en fait la mode va passer progressivement au cours du XVIIIe siècle. Le buisson d'oiseaux, finalement, c'est un avatar du cabinet de curiosité.
C'est-à-dire
Les intérieurs du 19e siècle, c'est un élément de décoration.
Vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble ?
Alors, c'est un arbre, un petit arbre de bois, qui est en fait doté de feuilles de tissu et reçoit des petits oiseaux naturalisés.
Vous diriez que c'est une sorte de pré-diorama, c'est le début d'un diorama ou pas ?
En quelque sorte. Disons que c'est entre la collection de Naturalia que l'on pouvait avoir chez soi, des collections de coquillages ou de minéraux, et effectivement le diorama des musées.
Et dites-moi Marion, ces collections, je me souviens d'un texte qu'on va écouter dans quelques instants de La Bruyère dans lequel il s'en moque, c'était une mode, tout le monde s'est mis à faire ses collections d'oiseaux à ce moment-là ?
Ah ben les collections de cabinets de curiosité, comme l'a dit Joël, hein, remontent au XVIe siècle. Donc on se passionnait pour les oiseaux rares ou précieux que l'on découvrait aussi par l'intermédiaire des compagnies des Indes orientales. Et au XVIIIe siècle, on va reprendre l'habitude hein, extrême orientale de reproduire les oiseaux en porcelaine, hein, en essayant de s'approcher de la volumétrie et d'un côté assez naturaliste de la représentation de l'oiseau. La fameuse commande d'Auguste Lefort à Dresde est assez étonnante. Hein. Il avait commandé.
Explique-moi parce que je ne connais pas Auguste Lefort.
Alors, racontez-moi. Auguste Lefort à Dresde, donc au XVIIIe siècle. Est un passionné de porcelaine. Hein. Il va échanger des bataillons de soldats contre des collections de porcelaine, par exemple. Et il...
C'est extrême.
Oui, tout
comme...
à fait. Ouais. Et il va commander la reproduction d'oiseaux réels, hein, provenant de sa ménagerie, en porcelaine, pour on peut dire, une sorte de musée de la porcelaine, hein, son fameux palais japonais. Qui finalement n'a pas vu le jour tel qu'il l'aurait souhaité. Et nous avons donc quelques productions qui proviennent de cette commande d'Auguste Lefort, notamment à Sèvres, que malheureusement on n'aurait jamais pu présenter à l'école des Argeoyers, puisqu'elles sont grandeur nature. Donc vous avez
Est-ce que c'est à Sèvres qu'il y a eu aussi les fameux plats faits d'après Martinet ça vous dit quelque chose ?
Oui, tout à fait.
Qu'il y avait un nom d'oiseau, ça m'amusait d'ailleurs.
Le fameux service aux oiseaux Buffon. Hein, en effet, qui reproduit l'histoire naturelle des oiseaux telle que Buffon l'a décrite et en reprenant les planches de Martinet en couleur à l'intérieur du bassin des
Buffon
assiettes,
etc. Buffon a fait une histoire très, très complète de, qui a été une date, non, dans la connaissance des oiseaux.
Qu'est-ce que, oui, tout à fait.
Marion
Oui, en effet. L'histoire naturelle de Buffon est l'un des grands best-sellers de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, avec de nombreuses rééditions, de nombreuses traductions et de nombreuses adaptations de livres pédagogiques et de livres pour enfants. On présente même dans l'exposition une plaque de jeu de loto faite d'après ces illustrations. Et effectivement, comme le disait Marion, un certain nombre de services de porcelaine vont être édités, reproduisant les oiseaux des planches de Martinet, mais avec les noms scientifiques des oiseaux et les noms vernaculaires, de façon à finalement un petit peu éduquer le public.
Marion, vous venez de nous raconter ça, il y a aussi un aspect comme ça qui apparaît dans le catalogue à un moment donné, et j'étais curieux de savoir ce que vous en pensez, c'était les automates. Il y a des automates oiseaux, il y a une mode à un moment donné là-dessus. Il n'y en a pas dans l'exposition, je ne crois pas, Joël,
Non, malheureusement, il n'y en a pas, mais c'est vrai que cette mode des automates s'est beaucoup développée au XVIIIe siècle, lorsqu'on a commencé à vraiment bien maîtriser les savoir-faire, qui étaient d'ailleurs assez liés à l'horlogerie. Et alors, on a quelques exemples de pendules cages.
C'est l'ancêtre du coucou des familles.
Un petit peu, oui. à l'intérieur desquels, en effet, un oiseau donc est installé et chante donc à l'heure dite. Donc il y en a 5 ou 6 hein, conservés dans le monde, c'est assez rare. Mais en dehors de ces pendules, on a conservé aussi quelques horloges mécaniques assez extraordinaires. L'une des plus célèbres, hein, c'est la fameuse horloge de Pan, conservée encore aujourd'hui à l'Ermitage, qui avait été achetée par Potemkin dans les années 1770 pour Catherine de Russie. par le fameux Cox, anglais, spécialisé dans ces pendules reproduisant donc des oiseaux quasiment grandeur nature. Et cette fameuse horloge de Pan donc montre un Pan faisant la roue. À côté d'un coq chantant, d'une chouette ouvrant ses grands yeux. Et bien sûr, donc, ceci est absolument fascinant, en très bon état encore aujourd'hui.
Alors là, on se rapproche des objets les plus précieux. On va en parler avec Guillaume Glorieux, qui a la gentillesse d'être avec nous. Mais avant, puisqu'on a évoqué la question des camées de curiosité, je vous avais promis qu'on écouterait un extrait de La Bruyère dans lequel il se moque un peu des camées de curiosité. Écoutons-le.
Diffile commence par un oiseau et finit par mille. Sa maison n'est pas égayée, mais empestée. La cour, la salle, l'escalier, le vestibule, les chambres, le cabinet, tout est volière. Ce n'est plus un ramage, c'est un vacarme. Les vents d'automne et les eaux dans leurs plus grandes crues ne font pas un bruit si perçant et si aigu. On ne s'entend non plus parler les uns les autres que dans ces chambres où il faut attendre pour faire le compliment d'entrée que les petits chiens aient aboyé. Ce n'est plus pour des fils un agréable amusement. C'est une affaire laborieuse et à laquelle à peine il peut suffire. Il passe les jours, ces jours qui échappent et qui ne reviennent plus, à verser du grain et à nettoyer des ordures. Il donne pension à un homme qui n'a point d'autre ministère que de siffler des serins aux flageolets et de faire couver des canaries. Il se renferme le soir, fatigué de son propre plaisir, sans pouvoir jouir du moindre repos que ces oiseaux ne reposent et que ce petit peuple qu'il n'aime que parce qu'il chante ne cesse de chanter. Il retrouve ces oiseaux dans son sommeil. Lui-même oiseau, il gazouille, il est huppé, il perche. Il rêve la nuit qu'il mue ou qu'il couve. Qui pourrait épuiser tous les différents genres de curieux? Devineriez-vous à entendre parler celui-ci de son léopard, de sa plume, de sa musique, les vanter comme ce qu'il y a sur la terre de plus singulier et de plus merveilleux? Qu'il veut vendre ses coquilles? Pourquoi non? S'il les achète au poids de l'or.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez l'art et la matière. Et nous sommes en train de parler d'une exposition qui s'appelle Paradis d'oiseaux, dans lequel on rencontre à la fois des magnifiques représentations scientifiques des oiseaux, des représentations artistiques, des bijoux extraordinaires de qui vont du XVIIIe siècle à nos jours. D'ailleurs, puisque nous avons la chance de vous avoir avec nous, Guillaume Glorieux, vous qui dirigez donc l'enseignement et la recherche de l'école des arts joailliers. D'ailleurs, c'est quoi cette école des arts joailliers?
Cette école a été créée en 2012 grâce au soutien de la maison Van Cleef & Arpels. Non, c'est une jeune école, mais elle a déjà une longue histoire, en effet, une histoire bien remplie. Cette école a pour mission de diffuser la culture joaillière auprès du public le plus large. C'est une école d'initiation qui est ouverte à tous, sans prérequis. Elle propose des cours qui se répartissent en trois grands domaines, l'histoire de l'art du bijou, le monde des pierres et les savoir-faire. L'école propose également des conférences, elle publie des livres et des catalogues, et elle organise régulièrement des expositions, deux expositions par an, l'une au printemps, l'autre à l'automne, sur des sujets chaque fois très différents et selon des approches renouvelées. Ainsi, la dernière exposition, à l'automne dernier, portait sur les bagues d'hommes, un sujet absolument autre que celui dont nous parlons aujourd'hui.
Ça me fait penser à un merveilleux collectionneur, peut-être que ça avait une relation, Gastou, le grand marchand de la rue Bonaparte.
Absolument, il s'agissait en fait d'une partie de sa collection, qui est une collection personnelle en effet, qui était présentée au public pour la première fois l'automne dernier. Collection exceptionnelle de bagues d'hommes qui couvre 2000 ans d'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Alors tout à l'heure, avec Marion Chacmillet et Joël Garcia, nous parlions de ces premières représentations d'oiseaux. Le Pan est arrivé. Est-ce que le Pan a été utilisé rapidement comme un des éléments de joaillerie? J'imagine que cette plume sublime a dû inspirer.
Oui, c'est une source d'inspiration en effet extrêmement féconde pour les artistes et notamment pour les joailliers. Alors, il faut peut-être préciser que la présence de l'oiseau dans la bijouterie est ancienne. Elle remonte à l'Antiquité, mais elle prend un essor particulier à partir du milieu du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e siècle, qui correspond donc aux limites chronologiques de l'exposition.
Mais est-ce que ça veut dire au fond que au moment où on commence à avoir une maîtrise un peu scientifique, si je puis dire, en tout cas une géographie scientifique des oiseaux, des variétés, etc., les bijoutiers s'y intéressent plus?
Alors, certainement, il y a un dialogue fructueux entre effectivement les bijoutiers, les joailliers et la science et les arts. C'est un dialogue qui est extrêmement intéressant à étudier et les joailliers vont donc aborder avec une certaine finesse, parfois même une certaine exactitude anatomique l'oiseau. Alors le paon effectivement est un motif extraordinaire, un motif
parce qu'on imagine que des pierres peuvent simuler ses yeux.
Absolument,
les yeux d'argos.
Absolument, tout à fait. Les pierres de couleur peuvent jouer cet office.
Dites-moi, est-ce que ce qui va fasciner ces extraordinaires techniciens qui sont les joailliers n'est pas au fond de rejoindre un impossible, la précision, la finesse de la plume, la délicatesse des couleurs? On frôle à chaque fois la reproduction impossible, non? C'est pas ça qui intéresse.
Oui, c'est un défi chaque fois, effectivement. La finesse des savoir-faire qui sont mis en œuvre, certainement. Les joailliers en font un motif privilégié. Effectivement, l'oiseau est prédominant dans la création joaillière, hein, entre le milieu du 19e siècle et le milieu du 20e siècle.
Est-ce qu'il y a un moment où il se libère? Moi, je me souviens dans l'exposition, des bijoux sont des oiseaux sur des branches, et puis après, ce sont des oiseaux en plein élan, par exemple des paradisiers, les fameux paradisiers, etc. Est-ce qu'il y a une évolution comme ça, une liberté qui se conquiert peu à peu?
Il y a en tout cas une très grande variété dans les attitudes qui inspirent les joailliers, depuis l'oiseau posé à terre jusqu'à l'oiseau saisi en plein vol, en passant par l'oiseau gracieusement perché sur une branche, ou l'oiseau qui déploie ses ailes, effectivement.
Alors, l'oiseau, je voulais vous interroger là-dessus, Joël Garcia. Le paradisier, à un moment donné, j'ai eu l'impression que on l'imaginait sans pattes. C'est vrai, cette légende?
Tout à fait. Et donc, il tire son nom de cette particularité qui n'en est pas véritablement une. En fait, le paradisier arrive en Europe dans la dernière caravelle qui rentre en 1522 en Espagne et qui en fait apporte des dépouilles de paradisiers qui ont été offerts par le sultan des Moluques au roi d'Espagne. Et ces dépouilles en fait sont dépourvues de pattes et les habitants des Moluques ont expliqué qu'il s'agissait d'un oiseau divin, d'un oiseau qui protégeait en fait les hommes dans le combat, et les marins vont transporter également cette légende avec l'animal. Les savants européens, y compris les plus distingués, vont donc imaginer que l'oiseau ne se pose jamais. C'est un oiseau du paradis qui peut-être se repose la nuit en s'accrochant avec ses plumes caudales, mais sinon ne touche jamais terre. Et d'ailleurs, l'un des noms scientifiques d'une espèce d'oiseau de paradis est dite apode, puisque donc dénué de pattes. C'est une légende qui va donner lieu à des représentations splendides des plumes, des ailes et du corps, qui vont faire de grands panaches, qui vont évoquer finalement les rayons du soleil. Et l'oiseau de paradis sera souvent représenté comme un grand panache entouré de nuées, comme dans ce manuscrit du XVIIe siècle que nous présentons dans l'exposition. Et cette représentation qui est reprise par Pierre Sterlet, justement, dans une de ses broches, avec une tête de corail et un corps en cheveux d'ange. Donc c'est tout à fait splendide.
Les fameux cheveux d'ange dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume Glorieux. Et il y a aussi, me semble-t-il, alors est-ce que c'est un paradisier, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y a un des grands joailliers représentés qui est probablement, qui trouve si compliqué de représenter ses plumes qu'il va se contenter, et c'est sublime, d'en ajouter. Mélériot.
Oui, effectivement, c'est intéressant. Mellerio le fait, oui. Mellerio est aussi à l'origine d'une autre invention, alors plus technique, qui avait été déjà explorée au cours du XVIIIe siècle et qui est le mécanisme du tremblant.
Ah, j'adore ça, oui.
Qui permet effectivement de fixer une ou plusieurs parties du bijou sur une petite tige souple, voire un ressort, et ce qui crée un effet dynamique et donne une illusion de vie assez extraordinaire. Alors, ce mécanisme du tremblant a été perfectionné par Mellerio, qui va en faire un peu sa signature, mais il n'est pas le seul ni le premier. Ce mécanisme a été d'abord et surtout mis en œuvre pour des motifs floraux, mais aussi pour l'oiseau.
Et dites-moi, vous connaissiez, vous, cela, j'imagine, Marion, ces tremblants, tous ces mécanismes que l'on ajoute à ce moment-là dans ces bijoux, c'est une tradition qui va dans d'autres domaines que celui des oiseaux. Vous le trouvez dans d'autres objets du monde de la curiosité ou des objets d'art, ou c'est justement là que ça commence. Je pense à des ailes de papillons qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
Il me semble que c'est quand même assez particulier, hein, la joaillerie. Et c'est vrai que Guillaume parlait très bien du tremblant, mais il y a énormément d'oiseaux dans l'exposition présentent des queues articulées. En ne passant pas forcément par la technique exacte du tremblant, mais de mécanismes extrêmement raffinés qui ne se voient quasiment pas, qui permettent par exemple chez la maison Beaugrand de faire frémir la roue du paon. Hein, en reproduisant ce mouvement réel de l'animal. La queue du paon de Cartier aussi, hein, et de 1947, je
Donc
crois.
Donc, au fond, c'est la respiration qui fait bouger l'animal, la respiration de la personne qui porte le bijou.
Oui, c'est ça. Et puis, on pouvait aussi orienter la queue du bijou en fonction de notre émotion, de notre état d'esprit. Hein. Par exemple, le paon de Mellerio, hein, que l'on rapproche du fameux paon de la comtesse de Chabrillan, daté de 1910, était à monter soit en bijoux de tête, hein, soit en broche. Et sa queue donc est articulée de telle façon, hein, que on puisse monter ou descendre la queue en fonction de ce que l'on souhaite faire partager, exprimer.
Ce sont des messages, vous pensez ?
Peut-être.
Parce que les pierres, par exemple, je me souviens pas exactement où je l'ai lu ça dans votre catalogue, mais peut-être que vous en souvenez, Guillaume Glorieux, c'est je pense à l'opale, par exemple. Il y a tout un commentaire sur le sens de l'opale. Comme une
sorte de... l'opale est une pierre très ambivalente, au reflet changeant, et elle a donné lieu d'ailleurs dans la littérature à la fin du 19e siècle à de très beaux textes, notamment par Robert de Montesquieu. Dans la littérature décadente, l'opale est souvent citée.
Comme un symbole d'inconstance ou quelque chose comme ça ?
Oui, d'inconstance, effectivement, de légèreté, d'ambiguïté, d'ambivalence, et Lalique l'utilise à plusieurs reprises dans ses pendentifs figurant des paons, justement. Parce que la symbolique du paon est très ambivalente, en fait. Elle varie selon les contextes, selon les époques et selon les cultures. Dans l'Orient, le paon est plutôt valorisé, symbole solaire dans l'islam, oiseau cosmique en Inde, d'où il est originaire, associé à des images de noblesse et de beauté en Asie. Alors qu'en Occident, le paon est plutôt symbole de vanité, oui, et d'orgueil. Et il est d'ailleurs associé aussi à l'image de la femme fatale à la fin du 19e siècle dans l'iconographie. Donc c'est une image très ambivalente et dont Lalique va s'emparer dans ses créations, en choisissant précisément une pierre au reflet changeant, l'opale.
Il y a un des éléments symboliques, j'ai oublié lequel que vous évoquez, et qui serait un symbole d'homosexualité. Je ne sais pas si c'était Eliane de Pougy ou quelqu'un comme cela qui avait...
Oui, c'est la chauve-souris.
C'est la chauve-souris, mais qui n'est pas un oiseau. Pourtant, elle a été associée, je crois, au début...
Qui était un oiseau autrefois
pendant très longtemps. Elle fut un oiseau, Joël Garcia, racontez-nous ça.
Oui, jusqu'au XVIIe siècle, en fait, le terme d'oiseau était appliqué à tout animal qui volait, de même que l'on utilisait poisson pour tout animal qui nageait, et y compris donc les baleines étaient appelées poissons. Et c'est au XVIIe siècle, avec une ornithologie par messieurs Ray and Willoughby, que finalement une véritable classification des oiseaux qui est très proche de la nôtre, très élaborée, a permis de déclarer que la chauve-souris n'était pas un oiseau.
Bon, je me demande ce que Darwin aurait pensé de cette association étrange. Vous savez, vous parlez de ces associations, justement, la chauve-souris appartenant au règne des oiseaux. Vous disiez que la pensée rationnelle, au fond, apparaît au XVIe siècle dans les premiers textes. Mais en même temps, je remarquais que les phénix faisaient partie des premiers livres soi-disant scientifiques que l'on voyait.
Alors, ce sont vraiment, le XVIe siècle, c'est le tout début des sciences naturelles scientifiques. Donc, il y a effectivement encore, dans les premiers traités d'ornithologie, des griffons ou des femmes oiseaux. Mais ensuite, progressivement, au fur et à mesure que les espèces exotiques arrivent en Europe, que l'intérêt pour l'oiseau se développe, que les sciences anatomiques évoluent aussi, grâce à l'autorisation des dissections.
C'est quand ?
C'est au XVIIe siècle, avec les académies.
Là, vous parlez de la dissection animale.
Oui. En fait, il y a eu une tentative déjà de dissection animale avec Frédéric II au XIIIe siècle, mais qui a été rapidement interrompue à sa mort.
Interdite ?
Oui, l'Église l'a interdite. Et donc, le traité de la chasse que Frédéric II de Weinstoffen avait écrit, enfin, et effectivement écrit, avec de magnifiques dessins illuminés qui, paraît-il, seraient de sa main, a été mis à l'index à son décès. Et il y avait notamment de très belles descriptions et de très beaux dessins qui montraient le vol des oiseaux de façon assez réaliste. Et donc le manuscrit a été mis à l'index, puis brûlé. Et en fait, on ne connaît d'ailleurs ces illustrations que par des copies qui avaient été sauvegardées. Et cette science est perdue, elle est revenue à la Renaissance. L'ornithologie s'est développée avec l'apport de nouvelles espèces. L'envie d'en savoir plus sur ces oiseaux qui en fait étaient tous si différents de ce que l'on voyait en Europe. Et à partir du 19e siècle, une véritable science ornithologique qui se distingue des autres par le fait que des savants se spécialisent dans le domaine. Et donc là, on a toute une évolution qui va aller finalement de la chasse, de la mort de l'oiseau, du cabinet de curiosité, vers une prise en compte non seulement de l'étude de l'oiseau par sa morphologie, son anatomie, mais aussi son comportement, sa relation à la nature, et qui va passer donc par aussi le respect de l'animal, avec notamment l'invention de la photographie, qui permettra de passer du véritable fusil au fusil photographique.
De Marais, de Jules-Étienne Marais.
De Jules-Étienne Marais, tout à fait.
Dont il y a un très beau fond d'ailleurs au Collège de France. Et Jules-Étienne Marais, évidemment, ça amène quelque chose de beaucoup plus précis. On est dans un autre monde, la locomotion animale, là, donc qui va tellement influencer les artistes. Et d'ailleurs, avec une distinction entre ceux qui vont être du côté de la représentation exacte, comme Meissonnier, et puis d'autres, comme Géricault, qui vont être dans une représentation plus imaginaire, n'est-ce pas, Marion Schack ?
C'est assez intéressant de voir comment les artistes se sont emparés, soit de l'animal vivant, qui palpite avec un petit peu comme ces artistes qui vont au Jardin des Plantes au 19e siècle par exemple et qui cherchent vraiment à saisir la puissance de l'animal, hein, son côté presque sauvage, et en même temps d'autres qui n'en retiennent plutôt que la particularité.
Le caractère sauvage, Barry et Delacroix, est-ce que ça serait ça?
Oui,
les
tout
exemples
à fait, oui. Par exemple. Oui, oui, tout à fait. Au musée du Louvre, hein, j'ai vu quantité de dessins de la croix réalisé donc sur le vif, hein, au Jardin des Plantes, avec notamment de très beaux dessins de vautours par exemple, et on sent sous le crayon extrêmement rapide et puissant, hein, de la croix cette recherche du secret de la vie, de la création avec un grand C. Hein.
Dites-moi, vous qui êtes versaillaise d'adoption, il n'y avait pas eu une dissection importante de casoars à Versailles? Ça vous rappelle quelque chose? Non.
Le casoar a été très représenté, en effet, à la ménagerie de Versailles. Et il y a une histoire assez amusante qui montre comment les artistes travaillent, puisque c'est Peter Boll, hein, le premier, donc d'origine flamande, qui est allé travailler pour le Brun à la ménagerie.
Pour le Brun, donc on est
au XVIIe siècle, hein, voilà. Les oiseaux de la ménagerie réapparaissent très fréquemment dans les tentures, hein, de la manufacture de gobelins, notamment la tenture, hein, des mois des maisons royales. Par la suite, hein, lorsque Oudry est allé lui aussi à la ménagerie. On sait qu'il s'est intéressé au casoar, mais on s'est aperçu qu'il avait reproduit le casoar que François Desportes, quelques années auparavant, avait lui-même reproduit. Donc il y a une réutilisation sans cesse des dessins des prédécesseurs, et notamment très souvent dans en matière d'objets d'art. Récemment, je lisais certains propos d'Auguste Renoir, hein, le peintre,
oui,
qui était très intéressé par la porcelaine. Hein. Vous savez qu'il a commencé dans sa jeunesse à travailler pour des décors de porcelaine. Et Renoir, essayant de projeter une grammaire à destination d'étudiants en peinture, disait, mais regardez tous ces étudiants, et même à Sèvres, qui ne font que calquer les dessins de leurs prédécesseurs. Et donc on voit bien qu'il y a à la fois donc une recherche ornementale qui petit à petit donc est dénuée de sensations du vivant, et d'autres au contraire, hein, ces artistes qui continuent d'aller observer l'animal dans la nature en y cherchant plutôt cette sensation de vie. Voilà, de façon un petit peu différente.
Alors, dans la stylisation, il y a une période qui va être très nette, hein, c'est celle dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, Guillaume, c'est celle de l'art nouveau et puis de l'art déco. Et donc, je propose qu'on écoute un petit texte fait par Paul Neveu à propos de l'alique. Écoutons les signes.
Ces signes qui, sur les pendentifs, glissent majestueux, déchirant les moires des étangs, dans des soirs dorés, ces signes fabuleux qui nous conduisent au pays des légendes, plus sûrement que les proses médiévales de quelques subtils contemporains. C'est la nudité permise, c'est la blancheur immaculée et cependant ostensible. Au moins, les signes se laissent voir. Qui adore le signe, désire la baigneuse.
Qui adore le cygne, désire la baigneuse, assez extraordinaire, parce que la relation entre l'oiseau et l'érotisme, finalement, est assez constant. On vient de l'entendre, là. Alors, évidemment, avec la lique, ça devient un cygne, comme cela devient dans le décor général, hein, le cygne devient un cygne. Mais par rapport à cette question de l'érotisme, je pense à Greuze, par exemple, hein, donc le fameux petit oiseau qui s'est envolé de Greuze, c'est une représentation, un symbole très, très courant.
Très courant au XVIIIe siècle, dans la littérature libertine, on le retrouve de manière constante, et ce motif était parfaitement compréhensible par les contemporains, en effet. Diderot a laissé un texte assez fameux décrivant l'un des tableaux de Greuze présenté au salon de 1765 avec une jeune femme pleurant son oiseau mort, c'est-à-dire la perte de sa virginité.
Oui, elle est navrée, la cage est ouverte, l'oiseau est mort.
La cage est ouverte, absolument. Et c'est un motif que l'on retrouvera dans la joaillerie au milieu du XXe siècle, dans un contexte autrement plus grave, celui de la Seconde Guerre mondiale. Et Jeanne Toussaint, par exemple, va créer des broches pour Cartier représentant des cages, alors fermées dans un premier temps, symbolisant évidemment l'oppression, l'occupation, et puis la cage qui s'ouvre au moment de la libération. Donc, intéressant de retrouver effectivement ce même motif, mais avec une symbolique tout à fait différente à deux siècles d'intervalle.
Alors, bon, l'oiseau, je pense, un texte persan très célèbre de Farid ad-Din Attar, le Cantique des oiseaux, qui a donné l'objet d'ailleurs d'une réédition très belle chez Diane de Sellier. L'oiseau a aussi, quand il n'est pas du côté de l'érotisme, un sens mystique profond. C'est peut-être le cas également de Stravinsky et l'oiseau de feu. Qu'en pensez-vous, Marion?
Oui, tout à fait.
On est en 1913 à peu près, hein, quand ça a été fait, n'est-ce pas ?
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que l'évocation de l'âme, hein, et de l'oiseau qui détient le sens de la vie et la mémoire des choses. Et finalement, la Simourgue orientale réapparaît aussi en Occident de façon un petit peu détournée.
Qu'est-ce que vous diriez que c'est quoi la Simourgue ?
Mais je pense
c'est cet oiseau mythique.
C'est vraiment.
Qui est Dieu, un peu, non?
Oui, c'est ça. C'est la connaissance, une connaissance intérieure, en effet, qui se rapproche d'une connaissance divine, mais qui amène aussi un sens profond. C'est assez intéressant de voir que, par exemple, déjà au Moyen-Âge, dans La Dame à la licorne, la tapisserie conservée au musée de Cluny, on associe très souvent l'oiseau justement à cette idée de l'âme et d'une connaissance supérieure.
Parce qu'il est entre la terre et le ciel, est-ce que c'est simplement cela ou c'est...
Oui, c'est ça, c'est l'idée, bien sûr, hein, de l'élévation de l'âme. Chez Jérôme Bosch, par exemple, dans le Jardin des Délices, hein, si on observe bien, très souvent, certains personnages qui renaissent sont juchés sur des oiseaux, et donc on a le sentiment qu'ils sont associés à cette idée de l'âme, hein, qui renaît. Et plus tard, donc si on se rapproche de Stravinsky, dont vous parliez, il y a bien sûr aussi le fameux oiseau bleu de Maurice de Maeterlinck, où ces fameux enfants vont chercher finalement partout l'oiseau bleu, et l'oiseau bleu finalement est chez eux, c'est-à-dire rechercher le bonheur en soi. Et l'idée de l'oiseau de feu, c'est en effet apporter un sens à la vie, il me semble. Le fameux prince part à la chasse, ne garde avec lui qu'une plume.
Qu'une plume arrachée.
Qu'une plume arrachée. Et finalement, donc, c'est cet oiseau qui le sauve et le ramène à la vie. Donc il y a cette idée de connaissance supérieure de l'oiseau qui s'élève dans les airs, qui se sépare d'une certaine gangue terrestre.
En fait, derrière cette idée de l'oiseau, il y a un champ de la liberté, parce que la liberté de l'art moderne s'est inventée très largement autour de cette figure de l'oiseau. Qu'en pensez-vous, Guillaume? Vous le pensez parce que probablement dans l'histoire de la joaillerie, c'est un moment où la liberté devient assez forte, le début des arts déco, il y a une sorte de, à la fois une grille technique, mais en même temps une réinvention de forme, on sort du naturalisme, on est plus près de l'imaginaire.
Oui, certainement. Les recherches menées par les joailliers, effectivement, s'inscrivent tout à fait dans l'évolution générale des arts décoratifs du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Depuis le naturalisme qui triomphe au milieu du 19e jusqu'à la stylisation et même l'abstraction au milieu du 20e siècle. Ça, on le suit très bien dans l'évolution de la création joaillière, oui.
Aujourd'hui, c'est encore un sujet pour les artistes joailliers.
Oh, c'est un sujet absolument. La nature, plus généralement, et la faune, effectivement, constituent toujours des sources d'inspiration extrêmement fécondes dans la création joaillière aujourd'hui.
Merci infiniment d'avoir parlé de tout cela avec nous et bravo pour votre exposition, Joël Garcia. Merci Marion Chacmillet. Votre savoir de professeur à l'École du Louvre est toujours impressionnant. Guillaume Glorieux, merci infiniment d'avoir commenté cette exposition qui est dans votre école, puisque vous êtes maintenant le directeur de cette fameuse École des Orgeries de la rue Daniel Casanova à Paris.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était l'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Joël Garcia, la commissaire de l'exposition, accompagnée de Marion Chacmillet, spécialiste des objets d'art et professeur à l'École du Louvre, et Guillaume Glorieux, le directeur de l'enseignement et de la recherche à l'École des Arts Joailliers, qui présente cette exposition. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr, lecture des textes La Belle Voix de Lara Brulle, une émission préparée par Héloïse Alluin et conçue en collaboration avec Seam Boutat. Merci Seam. Prise de son Philippe Mercher, réalisation Thomas Jost. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot pour son émission Une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.